Shalom. On va refaire peut-être. Bon. Shalom. Tout le monde sait que le Shulchan Aruch a été écrit par Rabbi Yosef Karo. Il y avait trois candidats pour écrire ce livre-là. Rabbi Yosef Karo, le Réma, Rabbi Moshe Isserles, qui habitait en Ashkenaz, à la ville de Cracov. En Europe orientale, et encore un troisième rabbin. Pour finir, c'est Rabbi Yosef Karo qui a été choisi. Pourquoi? Parce qu'il était le plus humble des trois. Comment on sait cela? Rabbi Yosef Karo avait un ange qui se dévoilait dans sa bouche. Rabbi Yosef Karo, il disait sans cesse des mishnayot par cœur. Quand on fait des mitzvot, alors on crée des anges. Nous sommes influencés par Michel-Ange, d'accord? Alors on voit en image des anges avec des petites ailes comme ça, et des arcs et des flèches, c'est pas tout à fait ça. Un ange, c'est une réalité spirituelle. Quand quelqu'un étudie la Torah, donc il crée une réalité spirituelle de sainteté. Quand elle devient extrêmement puissante, cette réalité de sainteté, donc elle peut même se dévoiler quand quelqu'un est extrêmement pur. Donc lui qui disait sans cesse des Mishnayot et des Mishnayot par cœur, donc il a créé dans sa bouche carrément un ange, une réalité spirituelle de sainteté qui se dévoilait et qui lui parlait. Et un livre entier, il a écrit un livre entier qui s'appelle Magid Mesharim, qui raconte la grosse majorité, c'est de la Kabbalah, mais une grande partie aussi du Moussard, des choses très, très intéressantes. Des fois il lui tombe dessus, il lui dit, c'est trois jours, je suis pas venu te voir, pourquoi l'autre jour tu as bu trois verres d'eau un après l'autre, espèce de gourmand, d'accord, comment tu oses faire une chose pareille? Une deuxième fois, eh bien, il lui dit, tu étais en train de dire des Mishnayot, tu allais dans le marché, il fallait voir ce qui se passait dans le ciel. Des dizaines de milliers d'anges étaient devant toi, et allaient devant les Mishnayot d'Arbi Yosef Karo, comme ça, toute la cour céleste était devant toi, comme ça, et buvait tes paroles. Tout coup, tu as demandé combien coûte ici le kilo de radis. Tu peux payer, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, les anges sont tombés, les ambulances sont venues, les pimpons, tout le monde supérieur se sont écrasés par terre. Tu as des dizaines de milliers d'anges morts. Comment tu osais arrêter pour demander combien coûte un kilo de radis? Bon, un moussard, qui évidemment ne nous concerne pas à nous, Rabbi Yosef Karo, de qui il fallait qu'il fasse son marché avec ça. Effectivement, peut-être il aurait dû dire comme ça, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, donc, le Magid Mesharim a dévoilé à Rabbi Yosef Karo qu'il y avait trois candidats à écrire le Bet Yosef, en fait. Le Bet Yosef, c'est l'œuvre dont le résumé est le Shulchan Aruch. Le Bet Yosef, c'est l'œuvre majeure de Rabbi Yosef Karo, qui est donc une anthologie de presque tout ce qui était écrit avant lui, des grands Rishonim, sur tous les sujets de la Halakha. Le résumé qu'il a fait pour les enfants qui le lisent à Shabbat, pour les enfants qui disent rapidement Shabbat, le résumé du Bet Yosef s'appelle le Shulchan Aruch. Et nous, aujourd'hui, le Shulchan Aruch, on peine, d'accord, pour comprendre quelques-unes de ces lignes. Ça, c'est le résumé pour les enfants de Shabbat. Quoi qu'il en soit, donc, la qualité nécessaire pour être un grand Israël, un grand qui transmet la Torah, c'est l'humilité. Le deuxième candidat, c'est le Réma, Rabbi Moshe Isserles, qui lui, après, a fait ce qu'il appelle les annotations. Les annotations du Réma, c'est qu'il a repris maintenant le Shulchan Aruch, il a brûlé son livre, il avait écrit un livre lui-même qui était comme le Bet Yosef, il l'a brûlé, il l'a caché, mais ça permet de faire des annotations de les coutumes qui étaient différentes pour les Ashkenazim et les Sfaradim, ce qui était différent chez les Ashkenazim et les Sfaradim. Donc il a fait annotation. Donc dans le Shulchan Aruch, on a les lettres, on va dire, carrées qui sont le Shulchan Aruch, et en italique, c'est les annotations du Réma. Donc le Réma, pour être celui qui va faire sa notation Shulchan Aruch, doit être lui aussi un homme d'une extrême qualité et aussi donc d'une extrême humilité. L'histoire raconte qu'à Cracov, dans la ville du Réma, il y a eu une grande épidémie. Et le Réma, qui était le rave de la ville, a ordonné qu'on regarde partout dans la ville qu'est-ce qui ne va pas pour voir pourquoi cette épidémie arrive. Et une personne est venue voir le Réma et dit, écoutez, moi je suis au courant qu'il y a la fille du boulanger de la ville. Elle vit avec un homme et on ne sait pas s'ils ont kiddushin, s'ils sont mariés les deux, ils ont fait un acte de mariage ou pas. On sait qu'ils sont depuis quelques années ensemble et personne, on ne connaît pas le témoin qui était là, on n'a pas entendu qu'il y a eu une fête, du jour au lendemain, comme ça la fille. Donc c'est à cause de ça que ça va, que cette épidémie se répand dans la ville. Le Réma a fait convoquer cet homme-là qui vit avec la fille du boulanger Et quand il rentre, il le reconnaît. Qui c'est? C'était son ravruta à lui dans sa jeunesse. Le Réma, quand il était jeune, il avait c'était toutes ces années de jeunesse où on étudie le mieux. D'accord. Après, quand quelqu'un devient rabbin, il ne peut plus étudier. Là, il a le, on appelle le hall du tzibour, le joug du public. Mais les années de jeunesse, c'est le meilleur où on peut grandir en Torah. Et il a grandi en Torah avec ce jeune homme qui était un grand Torah. Il dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Il dit, écoute, tu te souviens que moi je t'ai quitté, pourquoi? Je t'ai dit que je partais dans une autre ville. En fait, c'est faux. J'avais trouvé un chidour, c'était la fille du boulanger. Je ne voulais pas que les gens soient au courant de tout ça, donc j'ai amené 10 personnes en cercle extrêmement privé. J'ai fait un acte de kiddushin avec elle, avec un acte de mariage avec elle, et on s'est mariés. Le boulanger me paye à moi pour que je puisse vivre, et j'ai lu la Torah. Et bien, au Hachem, je grandis en sainteté, mais je vais le faire dans l'anonymat le plus complet. Pour justement garder l'humilité, pour être quelqu'un, si quoi, quelqu'un, le plus grand Yetzer Hara, des grands Rabbanim, des grands Tamil Chachamim, c'est qu'on les prend pour quelqu'un. Alors des fois, ils commencent à se prendre plutôt aussi pour quelqu'un. Et là, c'est la fin des haricots aussi. Quand quelqu'un commence à se prendre pour quelqu'un, c'est fini. On commence justement cette semaine le livre de Vaïkra. Vaïkra, mon cher Rabbeinu, donc celui qui a écrit le livre de Vaïkra, il a écrit peut-être la lettre Aleph du mot Vaïkra en minuscule. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vaïkra Hachem El Moshe. Dieu a appelé Moshe. Qui suis-je moi, mon cher Rabbeinu, pour que Dieu m'appelle? Ça le dérangeait trop. Alors il a mis en petit la lettre Aleph. Il m'a appelé Vaïkar. C'est comme ça par hasard. Si on enlève le Aleph, c'est Vaïkar. C'est par hasard, comme ça, il y a eu lieu que Dieu, tout à coup, il s'est mis en contact avec. Mais c'est pas Vaïkra, c'est je l'appelle. Tu comprends? Je l'appelle. Quoi. On m'appelle à moi, Dieu m'appelle à moi. Donc ça, c'est la plus grande qualité qu'on puisse avoir, la anava, l'humilité. J'ai l'habitude de dire l'humilité, zichrona livracha, de mémoire bénie. Comme dit la Torah. Ve'aish Moshe, anav meod mikol adam, mikol ish asher al mikol adam asher al pnei ha'adama. L'homme Moïse est l'homme le plus humble qu'il y a sur terre. Qui écrit cela? Moshe lui-même. Dieu lui a ordonné. La honte, d'accord. Écoutez les potes, je suis l'homme le plus humble de la région, hein, que tout le monde sache. C'est moi. Donc c'est très difficile. Mais si Moshe, Dieu lui ordonne, il écrit quand même. Et s'il a écrit dans la Torah, ça veut dire que c'est vraiment ainsi. Alors lui voulait garder ce jeune homme, donc le Chavruta du Réma, voulait garder l'anonymat. Parce qu'une fois que tu grandis en Torah, là on te commence à montrer les brachot, on te commence à si, et ça a l'air. D'abord tu as le joug du public, deuxièmement on te prend pour quelqu'un. Et encore on te prend pour quelqu'un, on te fait du kavod, et tu dois aussi, au bout d'un moment tu es un grand rabbin, tu dois prendre une misra, une situation pour aider le peuple. On ne peut pas se permettre d'être comme ça, qui était un grand Talmid Chacham, tu es connu, alors tout le monde vient, on a besoin d'un rabbin là-bas, on a besoin d'un rabbin là-bas, venez, sois le rabbin de la ville. Et quand tu es rabbin de la ville, il faut commencer à avoir un peu plus de poigne. Donc il faut être quelqu'un, il faut pouvoir dire non, des fois.
Mais là, le fait d'avoir caché son mariage, ça...
Alors, il a fait tout en cachette, il a disparu comme ça, disparu des circulations. Bon, le Réma lui dit, ok, c'est bon, tu peux y aller. Et le Réma était curieux de voir qu'est-ce qui se passe avec ce jeune homme. Alors, la nuit, il est venu comme ça, et hop, il a regardé par la fenêtre, et il voit que ce jeune homme étudie la Torah avec un autre rabbin, qu'il ne connaît pas. Bon, alors, il tape à la porte, tu vois qui c'est, et l'ancien jeune homme, c'était déjà plus un jeune homme, c'était déjà un grand rabbin. Va et ouvre la porte, et va le Réma. Qu'est-ce que tu fais là? Ben oui, j'ai vu que tu étudiais, je voulais voir avec qui tu étais. Je ne peux pas te dire avec qui tu étais. Comment? J'ai vu un rabbin, il avait l'air d'un grand ami Chacham, je veux voir avec qui tu étudies la Torah. Désolé, je ne peux pas te dire. Je suis le rabbin de la ville, donc je t'ordonne de me dire avec qui tu étudies la Torah. Bon, si tu m'ordonnes, je suis obligé de te répondre, j'étudie la Torah avec Elio Hanavi, avec Elio le prophète. Ah oui? Bon. Ok, je respecte, fantastique, mais alors je ne comprends pas une chose. Demande justement, la prochaine fois qu'il vient, demande pourquoi il vient te voir à toi et pas à moi. Moi aussi, tu es un grand rabbin dans. J'ai drossé à quelque chose. Ok, pour toi, je demanderai cette chose-là. Effectivement, le jeune homme a demandé à lui un avis. Pourquoi lui un avis se dévoilait à lui-même, le jeune homme, et pas au Réma qui était un rabbin énorme? Réponse de lui un avis. C'est vrai, le Réma est un rabbin énorme. Mais vu qu'il est rabbin d'une ville, il est obligé, comme je viens de dire maintenant, d'utiliser un peu ce qui s'appelle l'orgueil. La Torah autorise. C'est marqué dans la Gemara qu'on peut utiliser un huitième de huitième d'orgueil. Un 64e, c'est pas beaucoup, hein. Un 64e d'orgueil, on peut quand il y a une nécessité. Un rabbin maintenant dans une communauté, t'as des fois des gens qui font du bruit, t'as des riches qui sont pour quelqu'un qui commence à dire vouloir faire un peu autrement, ils veulent qu'on fasse une seule chazara alors qu'on doit en faire deux, ils partent pendant le Kriyat HaTorah. Il faut que le rabbin dise, hey, s'il vous plaît, un peu de silence. Un des millionnaires de la communauté, il faut avoir un peu de poigne pour avoir le courage de dire cette chose-là. Il faut un 64e au moins d'orgueil. Donc le Réma est obligé, pour assurer son job de rabbin de la ville, d'avoir ce 1/64 d'orgueil. Bien que c'est autorisé, moi, Eliane Avi, je ne peux venir le voir. Je ne peux plus venir voir quelqu'un. Quelqu'un qui a un minimum d'orgueil, même 1/64 qu'autorisé par la Torah, je ne vais pas venir le voir. Nous apprenons pour nous. Alors, nous, on est à 1 × 64. On n'est pas, même pas une unité, on est d'accord. Alors, combien? Essayons de minimiser au moins la moitié. Qu'on arrive à la moitié de l'orgueil que nous avons, on fera déjà une très grande mitzvah. Bonne journée.